La Deuxième Guerre mondiale fut suivie de celle de Corée, d'Algérie, d'Indochine, du Vietnam et j'en passe. Ces conflits laissent des traces dans les mémoires et dans les alliances géopolitiques. Israël a connu des guerres fratricides et sous le roi Roboam, fils de Salomon, les 10 tribus du Nord créèrent leur propre État et il n'y a jamais eu de réconciliation. Mais le prophète Jérémie annonce qu'à la fin des temps, le peuple de Dieu sera entièrement restauré. Il décrit tout d'abord la réunification des deux fractions d'Israël dans une terre promise renouvelée. Puis, cette première et brillante perspective ouvre au regard du prophète de nouveaux horizons bien plus glorieux. En effet, il annonce une guérison spirituelle, la régénération des cœurs grâce à une nouvelle alliance. De toutes les religions du monde, celle de l'Ancien Testament est la seule qui, tout en s'affirmant comme la révélation divine, prédit sa propre transformation en une religion nouvelle et supérieure à elle-même. Je commence à lire le chapitre 31 de Jérémie. « En ce temps-là, l'Éternel le déclare, « Moi, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ces familles seront mon peuple. » Verset 1. Le retour d'Israël dans son pays en 1948 n'est pas l'accomplissement de cette prophétie parce que les Israéliens sont toujours loin de Dieu. C'est une nation tout aussi laïque que la France. Je continue. Voici ce que déclare l'Éternel. Le peuple qui a échappé au tranchant de l'épée obtiendra ma faveur dans le désert. Je viens faire jouir Israël du repos. Verset 2. Jérémie contemple le retour futur des exilés israélites dans leur pays, d'abord ceux qui rentrent de la captivité babylonienne, mais aussi et surtout ceux qui, à la fin des temps, reviendront de la diaspora. Je continue. Dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit « D'un amour éternel, je t'aime, c'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. » Verset 3. Ici, nous avons l'explication du rétablissement d'Israël dans son pays. Dieu aime son peuple d'un amour éternel, ce qui veut dire qu'il lui reste fidèle à tout jamais et quoi qu'il arrive. À cause de cet amour, en son temps, selon son plan et afin d'accomplir ses objectifs, l'Éternel restaurera Israël et il sera à nouveau une théocratie dirigée par Dieu lui-même en la personne du Christ, le Messie. On pourrait se demander comment le Seigneur peut aimer un peuple pareil, d'abord idolâtre et maintenant sécularisé jusqu'au bout des ongles. Mais la vraie question est, comment Dieu peut-il aimer le monde et chaque individu en particulier, comme l'enseigne l'Évangile où il est écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » On peut critiquer les Juifs autant qu'on veut et leur jeter la pierre, mais cela ne changera rien au fait que l'Éternel a dit à Israël « D'un amour éternel, je t'aime. » De toute façon, nous ne valons certainement pas mieux que la nation juive. En effet, dans l'économie divine, il a fallu la mort expiatoire du Christ pour racheter tous ceux qui croiraient en lui, juifs ou non-juifs. Ce sacrifice suprême était nécessaire afin de satisfaire la sainteté bafouée de Dieu ainsi que sa justice afin qu'il puisse librement exercer son amour envers chacun de nous. Comment Dieu fait-il pour nous aimer? Vous et moi. Nous devrions être bouleversés, confondus et émerveillés de ce qu'il aime les êtres humains. Quelqu'un a écrit « Que tu puisses avoir de bonnes pensées envers nous tout en étant le Dieu que tu es, c'est la nuit noire pour mon intelligence, mais la lumière du soleil pour mon cœur. » Si Dieu nous aime, ce n'est pas pour ce qu'il voit en nous, mais bien plutôt à cause de qui il est. L'apôtre Jean écrit « Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. » L'amour que Dieu nous porte vient de l'amour et n'a aucune autre raison d'être en dehors de Dieu lui-même, mais est en Dieu et reste en Dieu parce que Dieu est amour. et Jésus-Christ qui est en Dieu est le centre de cet amour. En conclusion, Dieu nous aime, vous et moi, mais je ne sais pas pourquoi. Je continue le texte. « Je te rebâtirai, alors tu seras rebâti, ô communauté d'Israël. Tu porteras encore tes tambourins et tu t'avanceras au milieu de la danse des gens en liesse. Oui, de nouveau, tu planteras des vignes sur les coteaux de Samarie. Ceux qui les planteront en cueilleront les fruits. » Versets 4 et 5. Les tambourins étaient utilisés par les femmes lors des occasions joyeuses, notamment après une victoire militaire. Samarie, capitale du royaume des 10 tribus du Nord, fut conquise par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. Dans ce passage, il est question de « rebâtir et planter » qui renvoie au deuxième volet du ministère de Jérémie qui lui fut défini ainsi. « Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. » Je continue le texte. « Car il viendra le jour où les gardes crieront sur les monts d'Éphraïm. Allons et montons à Sion vers l'Éternel, lui notre Dieu. » Verset 6. À Jérusalem, des sentinelles étaient postées sur les hauteurs pour guetter l'apparition du premier croissant de la lune, car c'était par ce moyen que l'on fixait les dates des fêtes religieuses. Le peuple des 10 tribus du Nord, si longtemps empêché par ses rois puis par l'exil de participer aux fêtes à Jérusalem, pourra enfin le faire. Je continue le texte plus loin. « Je les ramènerai de la terre du Nord, je les rassemblerai des confins de la terre, et il y aura parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme encore enceinte et celle qui enfante. C'est une foule immense qui reviendra ici. » Verset 8. La terre du Nord représente les pays ennemis. Même les Israélites les plus faibles et les moins aptes à entreprendre un tel voyage ne seront pas délaissés, car l'Éternel les fera revenir dans leur pays. Je continue. Ils reviendront en pleurs avec des supplications. Je les ramènerai et je les conduirai vers les cours d'eau par un chemin bien aplani où ils ne trébucheront pas. Car je serai un père pour Israël et Éphraïm sera mon premier-né. Verset 9. Dieu est le père de la nation d'Israël, mais pas des individus. Moïse et David sont appelés des serviteurs et non pas des fils. Les larmes que verseront les Juifs de la diaspora revenant au pays sont à la fois celles du repentir et de la reconnaissance. En effet, c'est en acceptant la gratuité du salut que le pécheur verse les larmes, à la fois les plus douces et les plus amères. Je continue. « Ô nations, écoutez ce que dit l'Éternel et faites-le connaître dans les îles lointaines et les régions côtières. Dites que l'Éternel qui disperse Israël viendra le rassembler. Il veillera sur lui comme un berger sur son troupeau. » Verset 10. Tout au long du livre, le message de Jérémie est aigre doux parce qu'il est question à la fois de châtiment et de rétablissement. Dieu a jugé son peuple en le dispersant parmi les nations. Et c'est toujours la situation d'aujourd'hui. Mais comme il l'aime d'un amour éternel, à la fin des temps, il le ramènera dans son pays. Alors, les nations païennes, témoins de la délivrance d'Israël, rendront hommage à l'Éternel. Je continue plus loin. Les voici qui reviennent avec des cris de joie sur la colline de Sion. Ils affluent vers les biens que l'Éternel a préparés pour eux, le blé, le vin nouveau et l'huile, les moutons et les bœufs. Leur vie sera comme un jardin bien arrosé et ils n'auront plus de chagrin. Alors, les jeunes filles danseront dans la joie, de même que les jeunes gens et les vieillards. Et je transformerai leur deuil en allégresse. Je les consolerai de leur chagrin, oui, je les réjouirai. Versets 12 et 13. Cette prospérité et ces réjouissances correspondent aux bénédictions du traité d'alliance en cas de fidélité du peuple de Dieu à l'Éternel. Je continue plus loin. On entend à Rama une voix qui gémit et des sanglots amers. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler, car ses fils ne sont plus. Verset 15. Rama est une localité à 8 km au nord de Jérusalem. De ce sommet, on peut voir les territoires des tribus de Manassé et Éphraïm, descendants de Joseph, premier-né de Rachel. Elle était l'épouse bien-aimée de Jacob. Elle pleure ses fils tués ou exilés par les Assyriens. Dans son évangile, Matthieu cite ce passage pour décrire le deuil des mères des enfants de Bethléem massacrés par le roi Hérode qui voulait tuer l'enfant Jésus. Je continue le texte plus loin. « J'ai très bien entendu Éphraïm qui gémit, qui dit « Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau indompté, mais fais-moi revenir à toi afin que je revienne, car tu es l'Éternel, mon Dieu. » Verset 18. « Car tu es l'Éternel, mon Dieu » signifie « car de cœur je suis déjà revenu à toi ». Comme dans le livre d'Ésaïe, le mot « revenir » comporte à la fois le sens de retour de l'exil et le sens moral de conversion. Jérémie passe ici du premier de ses sens au second. La conversion ou le retour à Dieu d'une personne ne peut se faire que par l'action du Saint-Esprit dans son cœur. Je continue le texte. « Je m'étais détourné, mais à présent je le regrette. Éclairé sur mes fautes, je me lamente sur moi-même. Je suis confus, j'ai honte, car je porte le poids de tout ce que j'ai fait dans ma jeunesse et qui n'était guère honorable. Éphraïm est pour moi un fils que je chéris et un enfant que j'affectionne. Chaque fois que j'en parle, je me souviens encore plus vivement de lui. » Mon cœur est en émoi, j'aurai pour lui beaucoup de compassion. L'Éternel le déclare. Versets 19 et 20. Ce passage qui décrit la future repentance des Israélites et le merveilleux accueil que l'Éternel leur fera rappelle l'histoire de l'enfant prodigue. Je continue plus loin. Jusqu'à quand tourneras-tu dans tous les sens, fille rebelle? L'Éternel va créer du nouveau sur la terre. Maintenant, c'est la femme qui entourera l'homme. Verset 22. Ce verset est un peu compliqué. Jérémie cite un dicton populaire qui exprime en Orient la situation insolite où une femme poursuit un homme. Ici, la fille et la femme personnifient Israël et l'homme représente l'Éternel. Jusqu'à présent, Israël s'est détourné de Dieu, mais dans l'avenir, l'Éternel va créer du nouveau, c'est-à-dire établir la nouvelle alliance. Alors, à la fin des temps, Israël se convertira et comme une femme remplie d'amour, elle entourera de ses bras l'Éternel, son époux. C'est la femme qui entoure l'Éternel, mais cette femme représente Israël. Plus loin, Jérémie dit « Puis je me suis réveillé et j'ai ouvert les yeux. Mon sommeil m'avait été agréable. » Verset 26. Le prophète a reçu ses révélations en songe. Après tant de visions accablantes et de messages de jugement, il vient de contempler les ravissants tableaux de l'avenir messianique, ce qu'il a beaucoup apprécié. Je continue plus loin. En ce temps-là, on ne dira plus ce proverbe « Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont abîmées. » Mais chacun périra pour son propre péché. Versets 29 et 30. Sous l'Ancienne Alliance, les générations étaient liées entre elles et la dette des péchés s'accumulait. Quand la coupe de la colère de Dieu était pleine, il punissait la dernière génération. Par contre, sous la Nouvelle Alliance, chaque individu est responsable de lui-même. Je continue plus loin en compressant. « Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, Je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes. Je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Versets 31 à 34. Ce passage décrit ce que l'Éternel va créer de neuf sur terre. C'est le seul endroit de l'Ancien Testament qui parle d'une alliance nouvelle. Ce nouveau contrat entre Dieu et les hommes met au rebut, parmi les choses anciennes et périmées, l'alliance de la loi qui avait été conclue entre l'Éternel et Israël au mont Sinaï. Jésus a parlé de la nouvelle alliance lorsqu'il a institué la scène et l'apôtre Paul l'a développée en profondeur. Il faut remarquer que l'essence de cette nouvelle alliance reste la loi de Dieu. Elle n'est ni abolie ni changée. Seulement, au lieu d'être imposée de l'extérieur, elle est gravée dans le cœur de chaque croyant par la nouvelle naissance, devenant ainsi l'expression de sa volonté. Le fidèle désirant de lui-même obéir à Dieu. La mise en œuvre de cette nouvelle alliance a commencé pour les croyants dans l'Église. Elle sera aussi appliquée au peuple d'Israël à la fin des temps, quand il reviendra de la diaspora dans son pays. Les alliances de l'Éternel avec Abraham et David, ainsi que la nouvelle alliance, convergent dans le millénium sous la houlette du Messie. Je finis maintenant le chapitre 31. Voici ce que déclare l'Éternel qui place le soleil pour éclairer le jour et qui a établi les lois qui règlent la course de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, qui agite la mer et fait mugir ses flots et qui a pour nom l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Il faudrait que ces lois soient supprimées par devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi pour toujours d'être une nation devant moi. Versets 35 et 36. La stabilité des lois de la nature est le symbole visible de la grâce de Dieu et de la pérennité d'Israël en tant que nation. Alors que chez les autres peuples, certains individus sont élus, Israël seul est élu en tant que nation. Je commence à lire le chapitre 32. L'Éternel adressa la parole à Jérémie la dixième année du règne de Sédécias, roi de Juda, qui correspond à la 18e année du règne de Nabuchodonosor. C'était au moment où l'armée du roi de Babylone assiégeait Jérusalem et où le prophète Jérémie était enfermé dans la cour du corps de garde qui se trouve au palais du roi de Juda. Verset 1. Nous sommes quelques mois seulement avant la chute de Jérusalem et le roi a fait enfermer Jérémie à cause de ses prophéties. Je continue plus loin en compressant. Jérémie dit, « L'Éternel m'a adressé la parole en ces termes. Anaméel, le fils de ton oncle, va venir te voir pour te proposer d'acheter son champ situé à Anatote, car en vertu du droit de rachat, c'est à toi de l'acquérir. J'achetais donc à mon cousin le champ qui se trouve à Anatote et je lui en payais le prix de 17 pièces d'argent. Ensuite, je pris l'acte de vente qui était scellé où figuraient les stipulations et les clauses de la transaction ainsi que l'exemplaire qui était ouvert. » Versets 6 à 11. Lorsqu'un Israélite était obligé de vendre une partie de son patrimoine, son plus proche parent avait le devoir de la racheter. Cette loi avait pour but de maintenir intact l'héritage qui avait été à l'origine assigné à chaque famille israélite. L'acte de vente, sous forme de rouleau, comprenait la signature des parties contractantes et des témoins, puis il était scellé pour être préservé dans son intégrité. Une copie ouverte en était faite qui pouvait être consultée à tout moment. Je continue le texte plus loin. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Prends ces documents, l'acte de vente qui est scellé et celui qui est ouvert, et dépose-les dans un vase de terre cuite pour qu'ils se conservent longtemps. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. versets 14 et 15. Cet acte de vente scellé permettra un jour aux héritiers de Jérémie de faire valoir leurs droits de propriété sur ce champ. Au Proche-Orient ancien, on conservait les documents dans une jarre. C'est ainsi que furent sauvegardés pendant des siècles les fameux manuscrits de la Mer Morte. Je continue plus loin en compressant. J'adressais cette prière à l'Éternel. Voici que l'ennemi met ses terrassements en place contre la ville pour la prendre, et en proie à l'épée, la famine et la peste, elle sera livrée aux Chaldéens qui la combattent. Ce que tu avais annoncé va se trouver ainsi réalisé. Comme tu le vois bien, et toi, Seigneur Éternel, tu m'as dit, achète-toi ce champ à prix d'argent par devant des témoins alors que cette ville est en train de tomber aux mains des Chaldéens. Versets 24 et 25. Au vu de la prise de Jérusalem imminente et donc de la fin du royaume de Juda, le prophète a du mal à comprendre pourquoi l'Éternel veut qu'il se lance dans une opération immobilière. Jérémie nous montre que nous pouvons aller à Dieu avec nos doutes et nos malheurs. C'est exactement ce qu'il désire que nous fassions, vous et moi, parce qu'il nous aime et nos soucis l'intéressent. Je continue en compressant. Mais l'Éternel adressa la parole à Jérémie. « Oui, je suis l'Éternel, le Dieu de tout être humain. Y a-t-il une chose qui soit trop extraordinaire pour moi ? C'est pourquoi, voici ce que déclare l'Éternel, je vais livrer la ville aux Chaldéens et à Nabucodonosor, le roi de Babylone, pour qu'ils s'en emparent. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les aurai chassés dans ma colère, dans ma fureur, dans une grande indignation. Je les ferai revenir en ce lieu et y habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je conclurai avec eux une alliance éternelle par laquelle je ne les délaisserai pas, mais leur ferai du bien. Je les amènerai à me révérer de tout leur cœur pour qu'ils ne se détournent plus de moi. Je trouverai ma joie à leur faire du bien. Je les planterai ici, dans ce pays. Oui, je le ferai de tout mon cœur et de toute mon âme. »
Versets 26 à 41.
Le jugement sera suivi de la délivrance de l'exil babylonien, mais à la fin des temps, les Israélites ainsi que les non-juifs qui feront partie de la nouvelle alliance grâce à la nouvelle naissance auront un cœur transformé désirant obéir à l'Éternel. Dieu, pour sa part, portera une affection en quelque sorte humaine et paternelle à tout son peuple. Je finis le chapitre 32 en compressant. Car voici ce que déclare l'Éternel, comme je fais venir sur ce peuple ce grand malheur, je leur accorderai aussi tous les biens que je leur promets. On y achètera des champs à prix d'argent, on rédigera des actes de vente que l'on cachettera devant témoins dans le pays de Benjamin et aux alentours de Jérusalem, dans les villes de Juda et les villes de la région montagneuse, dans les villes de la plaine et dans les villes du Négev, oui. « J'accomplirai leur restauration, l'Éternel le déclare. »
Versets 40 à 44.
Alors que Jérusalem est sur le point de tomber entre les mains des Babyloniens, tout espoir n'est pas perdu parce que Dieu est toujours sur le trône de l'univers. L'amour qu'il porte à son peuple est inaltérable et il lui promet encore un avenir glorieux.